Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau moment partagé. Je suis en compagnie de Marion Billon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Alpine, vous êtes bergère et vous avez également une activité de maman et vous pratiquez l'instruction en famille. Et c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui puisque vous êtes assez impliquée dans ce domaine.
Oui.
On va commencer par revenir un peu sur votre parcours. Mmh. Au niveau professionnel, vous avez une formation d'institutrice.
C'est ça.
Et vous avez commencé votre activité dans les Hautes-Alpes. C'était en quelle année que vous avez commencé ici ?
En 2005, à la Graffe.
D'accord. Mmh. Et donc, vous avez exercé combien de temps en tant qu'institutrice ?
Alors, j'ai exercé 3 ans. C'était, voilà, je suis arrivée dans les Hautes-Alpes en 2005 et j'ai donc commencé...
Par ça,
à la Graffe, oui. Ouais. Mmh.
Et donc, au bout de 3 ans, vous avez arrêté cette activité ?
Oui, j'ai mis en pause. Je me suis mis en disponibilité, histoire de prendre un peu l'air.
Mm. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin ?
Pourquoi j'ai ressenti ce besoin ? Je me suis rendu compte que déjà, moi, en tant qu'adulte, j'avais vraiment du mal à rester 6 heures par jour dans une classe enfermée et que c'était pas mon élément. Voilà, c'était mon premier constat, en tout cas, pour l'instant. Sans parler des enfants, voilà. C'était vraiment le premier élan, c'était, voilà, moi j'avais besoin de prendre l'air.
Et au départ, cette formation d'institutrice, c'est quoi qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans, dans ce métier ?
C'est venu un peu petit à petit. On m'a dit, voilà, t'es bonne en maths, passe un bac S. J'ai passé un bac S. On m'a dit, bon, voilà, ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu fais ensuite ? Voilà, j'ai passé, voilà, comme ça, un DUG, une licence. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les maths, je voulais pas être prof de maths, finalement. Il me restait pas non plus, j'avais pas l'impression que j'avais beaucoup de choix. Et du coup, oui, je me suis dit, allez, je vais faire un STIT, c'est pluridisciplinaire. Les enfants, j'adore leur compagnie. Je pense que, autant c'est quelque chose qui va me plaire.
Voilà. D'accord. Donc, Et au bout de 3 ans, c'était un constat que c'était pas vraiment...
Ouais, je savais pas encore trop, puisque c'était aussi... voilà, d'avoir 30 enfants devant soi, c'est aussi épuisant. Et je pense qu'au bout de 3 ans, moi en tout cas, j'avais atteint un seuil où c'était soit je continuais, mais j'étais beaucoup moins disponible et agréable avec mes élèves, soit voilà, je prenais du recul et je prenais un peu large et j'avais besoin de faire une pause. Je me suis pas encore dit bon, ça c'est vraiment pas pour moi. C'est juste que voilà, 3 ans, c'était mon...
Fallait souffler un petit peu.
Ouais.
C'était quel niveau que vous aviez à l'époque ?
J'ai commencé moyenne section, grande section, après petite section, moyenne section, et ensuite CM1, CM2.
D'accord.
Ouais.
Alors, ce moment de pause, vous l'avez commencé, vous êtes lancé dans quoi du coup ?
Directement dans les brebis, ouais.
D'accord. Mmh. Donc, en tant que bergère, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce domaine ?
Du coup, quand je suis arrivée à la Grave, c'est un milieu très montagnard. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient de la montagne, ça a été complètement inconnu et je me suis mis à faire des randonnées, de l'escalade, de la montagne et ça m'a beaucoup plu et j'avais une passion pour les chevaux. Je suis partie à cheval pendant une semaine toute seule sur le plateau dans Paris et j'ai rencontré un berger avec qui j'ai partagé un repas et voilà, et dans la conversation c'était assez le berger typique, comme on pourrait s'imaginer, avec sa barbe solitaire, ses bourrues. Voilà, j'ai passé un repas assez chouette avec lui et je lui ai dit que j'aimerais bien essayer ce métier. Je pense que c'était quelque chose qui me tentait. Et il m'a dit, mais viens me remplacer, parce qu'il était du Sud, du coup il avait un bon accent. Viens me remplacer, j'ai besoin d'aller à la foire vendre mes agneaux. Ok, il avait 2000 brebis, ce monsieur. Ok, je viens, ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Il m'a fait confiance, alors qu'on se connaissait pas. Il est parti le matin, il est rentré le soir. Moi, j'étais épuisée, mais contente. Ouais.
Alors, entre 2000 brebis et 30 enfants, c'est quoi le plus facile ?
C'est différent. Ouais. C'est un peu la différence entre la fatigue physique et la fatigue nerveuse. Voilà, c'est pas sur le même plan en fait.
Ça se passe comment alors pour quand on débarque comme ça dans un troupeau de plusieurs milliers de brebis?
Bah, c'était vraiment la découverte pour moi. Je savais même pas qu'une brebis chômait. Enfin voilà, c'était vraiment un tout nouveau. Je connaissais les vaches, mais voilà, ça a pas du tout le même comportement grégaire et enfin c'est pas du tout pareil. Et ouais, j'ai été très surprise. Après, il y avait toujours cet élément, la montagne, qui me plaisait tout autour. Du coup, c'est un peu ça qui m'a convaincue de ce truc-là. Enfin voilà, j'étais. Ouais, je sais pas comment décrire. Ça m'a pris au trip, ouais, ça m'a vraiment plu.
Et donc, vous avez continué pendant plusieurs saisons.
Du coup, l'année d'après, oui, je me suis lancée avec 300 brebis.
Donc là, votre propre troupeau.
Oui, enfin, du coup, c'était pas mes brebis, hein, c'était D'accord. juste celles qu'on me prêtait pour l'été, enfin qu'on me laissait en garde. Après, il y avait quand même 200 vaches à côté que je surveillais, et du coup, j'avais eu le droit d'avoir de l'herbe pour 300 brebis au-dessus qu'on m'a gracieusement offert entre guillemets, et ça m'a permis du coup 300 brebis de me faire la main. C'est pour les soins, c'est beaucoup plus gérable. Voilà, un petit troupeau comme ça.
Ça consiste en quoi concrètement une journée de berger?
Alors, je ne vais pas dire une journée parce que ça se compte en termes de saison. Déjà, il y a toute l'étude de la montagne, de la pousse de l'herbe pour que ça puisse être mangé et au printemps et à l'automne pour que ça puisse repousser les années d'après, pour que le terrain ne soit pas érodé. Donc, il y a toute cette lecture de l'environnement. Que moi j'affectionne particulièrement. J'aime pas le travail en bergerie par exemple. C'est vraiment l'association
en
des
extérieur.
Deux qui me ouais. Et après il y a la garde du troupeau, la conduite du troupeau, la relation avec les chiens qui est assez énorme aussi. Et maintenant en plus il y a les chiens de protection, c'est encore une autre relation. Et également après tout ce qui est soin de l'animal. Qui est une grosse partie aussi de notre travail, puisque bah voilà, les bêtes, elles marchent énormément en montagne. Elles passent souvent l'hiver en bergerie. Du coup, voilà, c'est tous les soins qui sont liés aux pattes et à tout ça. Maintenant, je dis maintenant parce qu'au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas le loup là où j'étais. Maintenant, il y a le loup en plus à gérer. Il y a les naissances à l'automne. Voilà. Le fait d'observer les bêtes, vivre avec, de prendre leur rythme, de vivre au rythme du soleil, parce que j'avais plutôt tendance à vivre au rythme, voilà, un peu à de l'école, mais en dehors de ça, voilà. Donc voilà, c'était un peu tout ça une découverte.
Pendant quatre saisons, donc.
Pendant quatre saisons, ouais.
Et ensuite, vous avez repris le métier d'instit.
Oui.
Après ça, c'était suite à la naissance de votre premier enfant, c'est ça?
Oui. Puisque quand j'ai pris la quatrième saison de bergère, donc la troisième et quatrième, on a été ensemble avec mon compagnon, que j'ai rencontré juste avant la troisième saison. Et du coup, au début de la quatrième saison, ça faisait 15 jours qu'on avait le troupeau, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Du coup, voilà, j'ai fini la saison, et puis en plus j'étais déjà enceinte de 2 mois, j'ai fini la saison, j'étais enceinte de 6 mois. Du coup, j'ai repris, quand j'ai appris que j'étais enceinte, donc c'était au mois de juin, j'ai vite appelé l'inspection, dire ouais, est-ce que je peux reprendre l'école, alors que c'était pas prévu, j'avais pas parti ce mouvement et tout. Mais du coup, j'ai repris l'école. L'année d'après. Oui, non, mais c'est ça, ouais, voilà. J'ai repris l'école l'année d'après. Donc mon fils avait 9 mois.
D'accord. Et comment ça s'est passé, ce retour à l'école, du coup?
La séparation avec mon enfant était super dure. Enfin, moi, je l'ai très très mal vécu. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer en courant le midi. Je l'allaitais encore, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment heureux de retourner au travail et tout, mais moi, ça n'a vraiment pas été mon cas. Ça a été ouais, une dure épreuve.
Vous avez quand même surmonté pendant plusieurs années, encore 3 ans, c'est ça de...
Oui, moi après c'était vraiment au départ, après ça se passait mieux et puis
D'accord.
il allait pas ni à la crèche ni rien, il était gardé par son papa. Mais c'était vraiment voilà mon cœur de maman là qui
au
se
début,
déchirait.
Oui.
Je suis pas sûre que c'était si dur pour lui, voilà. C'était pour moi que c'était compliqué, ouais, la première année c'était très compliqué, ouais. Yeah,
toujours avec Marion Billon dans cette émission Moments partagés. Vous nous avez raconté votre activité de bergère et puis vos premières années en tant qu'institutrice. Mm-hmm. Vous avez choisi, avec votre compagnon, d'instruire vos enfants en famille. Mm-hmm. Donc c'est le terme, c'est instruction en famille, c'est le terme général.
C'est ça.
Mais il y a plusieurs pratiques concrètement qui sont choisies par différentes familles qui ne mettent pas leurs enfants à l'école classique.
Oui.
Quelles sont ces différentes pratiques en gros ?
En fait, on a le choix que l'on veut. C'est en fonction de nos croyances, c'est en fonction de nos disponibilités, du temps qu'on a envie d'y passer, de... De toute façon, en tant que parents, on fait, je pense, ce que on pense être le mieux pour nos enfants. Donc voilà, nous, on a choisi, par exemple, de vivre en unschooling avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on partage un maximum la vie avec eux, qu'on leur donne la possibilité d'aller à leur rythme en fonction de leurs envies, de leur centre d'intérêt et de la façon dont ils ont envie de le faire. On les accompagne, on essaye d'être disponible, voilà, sans pour autant s'oublier et on partage la vie avec eux. On partage au maximum et on est en contact au maximum avec la vie qui nous entoure. Après, il y a des familles qui choisissent des méthodes alternatives, comme Montessori, c'est, je pense, la plus connue et la plus pratiquée. Il y a aussi la pédagogie freinée, la pédagogie Steiner, voilà, toutes ces pédagogies un petit peu différentes. On peut trouver des écoles aussi alternatives. En fait, l'unschooling, ça pourrait se rapprocher des pratiques de l'école démocratique. Ensuite, il y a voilà toutes ces pédagogies que je vous disais où on trouve aussi des écoles spécifiques. Et il y a aussi la pédagogie traditionnelle que certaines familles choisissent de faire à la maison, qu'on qualifie de formelle, avec des apprentissages dirigés, un programme, un certain nombre d'heures dans la journée et un certain nombre de temps dans la semaine. Voilà.
D'accord. Le cadre légal autour de tout ça, c'est lequel du coup ? C'est quoi les obligations minimales que doivent suivre les parents en
programme d'instruction ? Alors, pour l'instant, jusqu'à la rentrée septembre 2019, donc là, il y a une nouvelle loi qui est en train de passer, donc ça va certainement évoluer. Mais pour l'instant, c'est l'enfant doit acquérir jusqu'à ses, enfin voilà, à ses 16 ans, l'enfant doit avoir acquis l'ensemble des compétences du socle commun. Et entre-temps, du coup, entre ses 6 ans et ses 16 ans, il doit progresser régulièrement et recevoir une instruction de la part de ses parents ou d'un adulte choisi.
D'accord.
Voilà.
Et c'est contrôlé par l'éducation nationale, du coup, tout ça.
Une fois par an, par un inspecteur et un conseiller pédagogique, souvent.
Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent contrôler concrètement ?
Du coup, ils viennent contrôler la progression de l'enfant et voilà que l'instruction est bien donnée et que l'enfant reçoit l'instruction dont il a le droit.
Ça ressemble à des tests. Des tests de compétences, du coup, auprès de l'enfant,
oui.
Du coup.
Alors, du coup, c'est très variable d'une académie à l'autre. Ils ont un peu chacun leur protocole et chacun leur connaissance en la matière. Les inspecteurs sont des gens déjà débordés par le manque d'effectifs dans l'éducation nationale. On leur assigne en plus cette tâche-là. Ils sont pas forcément tout le temps au courant des pratiques et des lois en ce qui concerne l'instruction en famille. Donc, il y a des conseillers pédagogiques qui font passer des tests comme on pourrait passer en CP ou en CE1 ou peu importe. Et il y en a d'autres qui acceptent de faire que des échanges oraux. On peut demander en tant que parent à ce que notre enfant soit interrogé que à l'oral. Nous, après, on est chargé d'apporter une preuve que l'instruction soit bien donnée. Il y a donc un entretien aussi avec le parent. Mais voilà, du coup, oui, c'est très variable d'une académie à l'autre.
Alors, vous avez deux enfants actuellement,
oui.
3 et 7 ans. Mmh. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette méthode d'instruction ?
Ou ce non-méthode d'instruction ? Pourquoi ?
Pourquoi pas l'école classique ?
Puisqu'on avait envie que nos enfants soient au maximum au contact de la vie et de la société qui les entoure pour qu'ils puissent se réaliser pleinement et se respecter pleinement. En effet, moi, j'ai bientôt 40 ans et je me cherche encore. Et je pense que toute la période où j'aurais dû me trouver, on m'a orienté et dit ce que j'avais à faire et quand le faire et ce qui était bien pour moi et ce qui était le mieux pour moi. Et quelque part, j'espère que en faisant de cette façon-là avec nos enfants, j'espère que eux n'auront pas ce cheminement-là et qu'ils seront tout de suite dans le sens de leur vie et qu'ils se trouveront et se révéleront tels qu'ils sont, quoi.
C'est quoi le défaut de l'école traditionnelle, on va l'appeler comme ça, pour vous, selon vous ?
Le défaut.
Ou les défauts, s'il y en a plusieurs.
On va prendre le principal. c'est-à-dire, pour moi, ce qui est dommage, c'est le fait que les enfants sont cloîtrés entre quatre murs, avec des âges. Enfin, voilà, ils sont entre personnes du même âge. Même si il y a des classes qui sont de plusieurs niveaux, mais bon, ça reste quand même les enfants ensemble, avec un enseignant qui est là pour leur transmettre du savoir, et que du coup, on les coupe de tout le contact qu'ils pourraient avoir avec l'extérieur et de toutes les compétences qu'ils pourraient bénéficier de tous les adultes et de tous leurs pères également, et voilà, qui les entourent. Je trouve qu'on les coupe de tout ce potentiel-là. Et le fait aussi de prioriser les apprentissages, puisqu'il y a des enfants qui sont loin d'être bêtes et qu'on pense être bêtes ou qu'on qualifie de cancre pour pas dire autre chose, juste parce que du coup leur façon de voir et leurs intérêts ne correspondent pas aux attentes de l'école. Et je trouve que c'est dommage et que quelque part peut-être ils sont un petit peu gâchés. Je voudrais pas dire un gros mot, mais voilà, peut-être qu'ils excelleraient dans un domaine et que du coup ils perdent toute confiance en eux, alors qu'ils ont certainement des compétences dans un domaine voilà qui les révélerait.
Donc l'école serait trop rigide, trop formatée à l'avance.
Trop priorisante, oui.
Trop priorisante.
Oui, je pense.
Et donc vous, votre pratique de l'unschooling, c'est au contraire d'ouvrir un maximum,
oui.
De mettre un minimum de cadre avec vos enfants, en fait.
De mettre un minimum de cadre en termes de choix d'apprentissage, oui.
Et donc, concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous voyez qu'il progresse ?
Eh bien, quand il est sorti de mon ventre, il était dépendant de moi pour tout. Là, il a 7 ans, il sait marcher, il sait parler, il commence à parler en anglais. S'il a besoin d'apprendre à pêcher, il va aller voir le pêcheur qu'il voit au bout du ponton. Il a un contact très facile avec les adultes. Il excelle en communication. Il sait toujours pas lire, toujours pas écrire, parce que c'est vraiment pas son truc pour le moment. Mais par contre, voilà, il fait déjà de l'escalade. Il a déjà des... Et quand on voit des gens en alpage, il va à leur rencontre. Il leur dit comment est-ce qu'il faut se comporter avec les chiens de protection. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les brebis et comment ça fonctionne et les chiens, comment on leur parle. Et on voit qu'il a déjà des connaissances et des compétences et qu'il est heureux de les transmettre. Et ça le valorise, puisqu'il y a des gens qui sont en attente et qui lui posent des questions. Et voilà, on se rend compte que même un adulte peut apprendre des choses d'un enfant, puisque cet enfant-là est plongé dans un monde qu'il maîtrise et qui lui plaît. Et voilà. Donc comment je le vois, du coup, de cette façon-là, oui.
Quand on pense à l'école, on pense à des matières spécifiques. J'imagine que à 16 ans, ce qui doit être validé, ça doit être des compétences, lecture, maths, je sais pas, histoire peut-être. Comment est-ce que vous voyez, il va spontanément, d'après vous, aller vers ces demandes-là d'apprendre à compter, d'apprendre, comment ça va se passer à votre avis?
Alors,
pour ces matières vraiment spécifiques,
Des choses un peu plus spécifiques, je ne sais pas encore, puisqu'on n'y est pas encore. Mmh. J'apprends au fur et à mesure aussi que mes enfants grandissent et au fur et à mesure de côtoyer les enfants d'autres familles, puisque je suis en contact de beaucoup de familles. Après, si je sais... Enfin voilà, j'ai quand même énormément lu, énormément rencontré de personnes. Il y a des pays dans lesquels l'instruction en famille et l'unschooling est très développé. Donc on voit que ces personnes se réalisent vraiment en fonction de qui ils sont. Donc après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot réussite, hein, finalement. Mais pour revenir aux compétences du socle, tout ce qui est le plus développé dans notre société, donc ça va être un monde quand même de lecture, on vit dans un monde de lecture. C'est comme le fait d'apprendre à parler, l'enfant il baigne dedans, on est toujours en train de lire, on a de l'écrit toujours autour de nous. Il y a forcément un moment où il va dire, ben là en fait qu'est-ce qui se passe, j'ai qu'est-ce besoin de ces codes-là, voilà, et il va se poser les questions, interroger. Des fois, ça va être juste être une question. Et là, pourquoi il y a un P, c'est parking. C'est la première lettre du mot parking. Ça indique aux gens que là, on peut se garer et il y a un parking. Et voilà. Et dans sa tête, ça va faire son chemin. Et peut-être un mois après, il va poser une autre question. Et voilà, il y a tout qui se met en place. Et il y a des enfants qui apprennent à lire tout seul. Et finalement, si un enfant ne se dirige pas tout seul vers la lecture, donc ça peut être à 10 ans, hein, ça peut être à 3 ans, comme ça peut être à 10 ans, comme pour l'apprentissage de la marche. Il y en a qui apprennent à marcher à 1 an, il y en a qui apprennent à marcher à 2 ans. Bon, au final, tout le monde sait marcher. Et voilà, je pense que pour la lecture, c'est la même façon. Et si l'enfant n'apprend pas à lire, soit en demandant de l'aide de quelqu'un d'autre, soit par lui-même, c'est qu'il y a un problème autre et que de toute façon, à l'école, il aurait rencontré ce problème. Donc après, c'est peut-être à nous aussi, en tant que parents ou personne qui le... de dire, bon, ben voilà, peut-être je vais t'emmener voir un orthophoniste ou un orthoptiste ou peu importe si on a des doutes ou un psychologue, si... Voilà.
Donc vous suivez vraiment les demandes de l'enfant, en fait.
Oui. Oui. Après, pour vous donner notre cas personnel, j'ai ressenti l'envie pour Tilwan de rentrer dans la lecture depuis ses 5 ans, mais j'ai senti également une gêne. Et du coup, effectivement, on a été consulté, une psychologue et une neuropsy, pour arriver à un bilan et savoir effectivement où était la gêne. Et en fonction de ça, on l'accompagne, toujours en fonction de ses demandes, mais on a un accompagnement adapté à lui, quoi. Voilà. Donc on ne le laisse pas à la dérive non plus.
Thank you.
Vous êtes bien dans Moment Partagé avec Marion Billon qui pratique avec sa famille l'instruction en famille, la méthode, je ne sais pas si vous appréciez le mot de méthode, mais en tout cas l'unschooling. Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Vous avez dit que vous renseignez auprès de personnes qui sont dans des pays où c'est assez développé. En France, est-ce qu'on a facilement des renseignements à trouver, des méthodes pour instruire ses enfants en famille? Ou est-ce que c'est compliqué de... Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu tout seul chez soi, un peu démuni au début, peut-être ?
Peut-être. Moi, je pense que tout ça, c'est un cheminement. On arrive petit à petit au constat que soit l'école n'est pas adaptée, soit ne correspond pas à notre vie, soit ne correspond pas à notre enfant. Il y a des parents qui enlèvent leur enfant de l'école parce qu'il est en échec ou en souffrance. Et puis, il y en a d'autres qui décident dès le départ de ne pas le mettre. Donc voilà, chacun fait son chemin. Et je pense que l'unschooling, en tout cas pour nous, je pense que c'est vraiment un travail sur soi. Le fait de lâcher prise, d'essayer de se libérer d'un peu de tous ces codes, de toute cette culture, de tout ce qu'on nous inculque et qu'on voudrait nous faire penser indispensable pour nos enfants. Et voilà, d'avoir une prise de conscience, de réussir à ouvrir les yeux sur la façon dont apprennent les enfants. Puisque moi, j'ai beaucoup de familles qui me disent « Bon, bah voilà, l'année prochaine, mon fils ou ma fille, elle a 3 ans. Qu'est-ce que je dois faire avec lui ou avec elle, puisque j'ai décidé de pas le mettre à l'école. » Et on se rend compte que on pense que jusqu'à 3 ans, le parent est capable, que la vie suffit, et puis on se dit à 3 ans, faut faire quelque chose de spécifique, puisque à 3 ans, normalement, l'enfant va à l'école. Alors que, voilà, je pense que c'est vraiment un travail de déconstruction, et les premiers qu'on a à déscolariser avant nos enfants, finalement, c'est nous, en tant que parents.
Oui, parce qu'en fait, ça a un impact non négligeable sur vous aussi.
Ah oui.
L'unschooling.
Ah oui, oui. En fait, je dis pas que mes enfants sont en unschooling, je dis que nous vivons en unschooling, en fait.
Toute la famille.
Oui. Eh oui. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué chez moi. Et je pense que c'est la plupart des gens, c'est la même chose. Quand on se rencontre, qu'est-ce qu'on a appris vraiment avec envie et avec passion et comment est-ce qu'on l'a appris? C'est sur le terrain, en côtoyant les gens. À l'école, ça nous a donné peut-être un chemin pour aller vers quelque chose, mais c'est une fois qu'on est dans la réalité du terrain et dans la réalité de la pratique qu'on apprend des choses, qu'on rencontre des gens. C'est avec les échanges avec les autres, c'est ça qui nous fait le plus progresser et le plus apprendre. Et voilà, je pense qu'on apprend tout au long de la vie. Donc oui, nous aussi.
Comment est-ce que vous rencontrez d'autres familles du coup qui pratiquent ça aussi? Vous avez un réseau, par exemple, dans les Hautes-Alpes?
Alors, dans les Hautes-Alpes, on a un réseau. Il y a Il y a des groupes Facebook, il y a IEF PACA par exemple qui s'appelle.
IEF pour Instruction en Famille.
Instruction en Famille, pardon. PACA du coup pour la région. Là c'est vraiment pour des échanges, mais ça reste surtout dans le sud de la France. Après il y a IEF, il y a un forum qui s'appelle IEF 04 dans lesquels il y a des familles qui sont inscrites et qui mettent des activités qu'elles font aussi dans le 05. Notamment sur GAP, il y a un réseau qui fonctionne beaucoup avec ce forum. Et après, pour nous qui sommes plus dans le nord du département, on a un groupe de familles qui nous connaissons. Et voilà, on a une petite mailing list là. Dès qu'on fait un truc, on s'envoie un mail, on se retrouve, on partage des moments. Voilà.
Donc pour se donner une idée, il y a une quinzaine de familles sur la moitié est du département des Hautes-Alpes.
Oui, sur la moitié nord, voilà, nord, d'entre ouais. Savines et La Grave, il y a en tout cas 15 familles qui ont été inspectées cette année.
Je reviens sur une question, une remarque qui est souvent soulevée quand on parle d'instruction en famille, c'est est-ce que les enfants, du coup, ne côtoient plus d'autres enfants, alors que s'ils étaient à l'école, ils en côtoieraient beaucoup. Comment ça marche pour vous, la sociabilisation des enfants qui sont instruits en famille?
Alors, déjà, moi, je pense que l'école est antisociale. Je m'explique. Je pense que quand nous sommes 30 dans une classe qui fait 40 mètres carrés, à se côtoyer par force, en étant obligé de se côtoyer, je pense pas que c'est là que nous construisons les meilleures relations possibles entre êtres humains. On est obligé d'interagir avec des pères que nous n'avons pas choisis dans nos tranches d'âge, et d'ailleurs ça se voit bien à l'âge adulte, il y en a beaucoup qui se retranchent sur la famille, et c'est pas parce que ils sont adultes et qu'ils ne vont plus à l'école qu'ils continuent d'avoir une vie sociale débordante, puisqu'on leur a appris à avoir une vie sociale débordante, à être à 30, à avoir 30 copains par jour, et plus encore dans une cour de récréation. Et c'est pareil, les cours de récréation, alors il y a soit ceux qui courent partout, soit ceux qui restent assis dans un coin parce qu'ils ont peur de se faire bousculer. Voilà, je suis vraiment pas sûre que c'est les endroits dans lesquels on peut rencontrer le plus de gens. Et surtout, on peut rencontrer, oui, mais de là à voir les relations les plus épanouies, je suis pas persuadée. Et la preuve en est que les enfants, quand ils quittent l'école, ou quand c'est les vacances, ou le week-end, ils sont heureux de retrouver leurs copains pour jouer et pour partager des vrais moments. Et c'est pas à l'école qu'ils partagent le plus de vrais moments. Donc finalement, mes enfants, ils sont pas coupés du monde. Ils voient aussi des copains, ils voient des copains scolarisés, ils voient des copains non scolarisés, ils voient des copains de tout âge, ils passent des bons moments d'échange aussi avec des adultes. Voilà, ils sont... D'ailleurs, tout le monde le dit, ils sont super sociaux. Ils vont vers les gens très facilement.
Donc c'est pas un problème.
Non, c'est vraiment pas un problème.
Et une autre question pratique sur l'instruction en famille, le budget. Ça demande un budget particulier.
Alors ça c'est pareil, je pense que ça dépend des familles et des choix.
Des choix,
oui. Oui, nous avons choisi une qualité de vie de partage avec nos enfants, donc forcément nous travaillons beaucoup moins que la moyenne, donc nous gagnons beaucoup moins et on a réduit nos dépenses. En fait, c'est pas tout ce qu'on achète, j'exagère, mais on se demande est-ce que ça, on en a vraiment besoin. Et finalement, on rentre dans un cercle vertueux où on sort un peu de cette société de consommation et on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de temps et la nature et ce qui nous entoure et les autres nous apportent suffisamment. On n'a pas besoin de s'acheter, je sais pas moi, du matériel spécifique pour travailler telle ou telle compétence. C'est des choses qu'on trouve naturellement dans la vie. Après, je dis pas que j'achète rien, ça nous arrive, mes enfants ont des envies aussi, et voilà. Là, mon fils nous a demandé d'aller faire un stage de cirque, il va faire un stage de cirque, ça a un coût, c'est sûr, mais voilà, ça nous coûte pas plus cher, en fait, que s'ils étaient à l'école. Ça nous coûte même moins cher. Mais ça, c'est notre pratique. Il y a des familles qui choisissent de faire autrement, et par exemple qui prennent des cours par correspondance. Et là, effectivement, ça a un coût. Maintenant, et on peut aussi considérer que le fait qu'il y ait un des deux parents qui s'occupe des enfants, du coup, qui quitte son travail, eh bien oui, du coup, ça a un coût. Mmh. Ça représente un salaire en moins. Mais si on voit les choses autrement, nous, ça nous a permis d'évoluer aussi dans notre famille, de vivre différemment, de consommer différemment, de consommer mieux, de prendre soin de notre environnement aussi. Et c'est bénéfique. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour notre environnement, pour notre planète, voilà. C'est un tout, c'est un cercle vertueux et je pense qu'il y a différentes entrées possibles. Nous, on y est arrivé avec nos enfants et on est arrivé à rentrer dedans par l'unschooling ou l'instruction en famille, peu importe. Il y a d'autres familles qui vont le penser différemment et qui rentrent dedans par l'écologie, mais finalement, on en arrive tous au même point, quoi.
حكاية ماذا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا النار ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك قالي شفا ولا بالك.
Vous êtes bien dans l'émission Moments partagés avec Marion Billon. Il est question d'instruction en famille. Marion Billon, vous avez depuis peu créé un blog sur Internet, donc oui. Sur ce sujet.
Exact.
C'est parti de comment ça s'est déclenché la création de ce blog ?
D'une remise en question. Je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui donnerait vraiment du sens à ma vie ? Qu'est-ce qui me plairait de faire ? Et j'ai voulu accompagner les familles en instruction en famille, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur de voir des enfants épanouis. Voilà, j'avais envie de partager tout ça. Ça me semblait très important, en tout cas pour moi. Et voilà. Et nous sommes dans un département qui est assez petit. Je côtoie finalement un grand groupe de personnes, mais qui reste assez restreint. Et j'avais envie de m'ouvrir un petit peu au reste du monde francophone. Et il m'a semblé que le blog était une bonne idée. Et un dernier point, c'est que j'adore écrire. Voilà, ouais. C'est des bons moments que je passe à écrire. Et ça m'a donné l'occasion de concilier un peu tout ça.
Le blog s'appelle Les enfants à venir, c'est ça ?
C'est ça.
Avec à venir en un seul mot.
Voilà, comme l'avenir.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce blog ?
On peut y trouver des ressources, des idées, des échanges de questionnements. Enfin voilà, c'est surtout des questions que moi je me suis posée à un moment donné et le fait de chercher les réponses, j'ai eu envie de les partager. Je me suis dit que ça pouvait profiter aussi à d'autres familles. Voilà, on dit bien aussi que, enfin, je dis pas que j'ai le parcours à suivre, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui pourront éviter de passer par certaines étapes en lisant
un article, un moment de partage,
oui, un conseil ou juste une expérience. Et voilà, si ça peut profiter à quelqu'un, eh bien, tant mieux. Et puis voilà, c'est parti de ça en tout cas.
Donc ça ressort surtout vos expériences personnelles du coup en instruction en famille.
Oui, ça ressort beaucoup de mes expériences personnelles. Après, j'ai fait aussi une quinzaine de podcasts où j'ai enregistré des familles. J'ai eu les contacts via le blog, des gens qui me suivaient déjà. Et mon but, c'était aussi de montrer qu'il y avait autant de façons de faire l'instruction en famille que de familles qui existaient. C'est peut-être un peu beaucoup, mais de dire, voilà, il y a vraiment beaucoup de façons de le faire. On peut le faire avec beaucoup de moyens ou peu de moyens, beaucoup d'enfants ou pas d'enfants, famille monoparentale ou famille recomposée ou famille papa, maman et les enfants. Je pense que ça, c'est pas un profil, mais ça peut correspondre à tout le monde. C'est un choix que nous avons tous et c'est pas réservé à certains d'entre nous.
Très bien. Et donc, ce blog, on rappelle l'adresse, du coup, précise.
Alors, c'est les-enfants-avenir.com.
Voilà. Merci beaucoup, Marion Billon, d'être venue sur la RAM parler de votre expérience.
Avec plaisir.
Et de votre parcours. On vous invite à faire un tour sur ce blog, Les Enfants Avenir, pour en savoir plus sur ce sujet, si ça vous intéresse. Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci à vous.